Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid, 140 EDC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, c'est de midi à 15h, c'est sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Paul Lassen, journaliste RMC, Juliette Briens, journaliste à l'incorrect, Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, et Pierre Rondeau, économiste du sport. Dans un instant, J-30 avant les JO. Eh oui. Est-ce que ça vous excite? À 14h30, RMC Conso, confiture, lunettes, stylos et élections législatives. Quel rapport? Et on vous expliquera. Et puis à 14h40, les immanquables de Paul Lassen. On parlera de quoi, notamment Paul?
La scission qui continue au sein de la France insoumise. On a appris ce matin que les Français consommaient de plus en plus de drogue. N'y voyez absolument pas un lien de cause à effet. Et puis plusieurs journalistes d'origine maghrébine qui reçoivent énormément ces derniers jours d'insultes racistes. On vous détaillera tout ça.
30 jours
avant les Jeux Olympiques sur RMC.
Ah, il y a quand même une petite émotion quand on entend ça, non? Je te vois, Pierre. Le compte à rebours du jour. Dans 30 jours, tout juste, vous venez d'entendre, les JO de Paris 2024 débuteront. Ce sera cette fameuse cérémonie d'ouverture qui a déjà fait tant parler. Paul, à un mois de l'événement, y a-t-il un début d'engouement chez les Français?
Franchement, ouais. Pas vraiment. Seulement 24% des personnes interrogées par l'Institut ELAB sont excitées à la perspective des Olympiades dans un mois. Les autres chiffres vont dans le même sens. 30% expriment leur scepticisme, quand dans le même temps, 46% expriment leur indifférence. Alors, si on se penche sur les premiers concernés, les Parisiens, 37% eux se disent sceptiques, 35% indifférents et un Francilien sur trois, 27%. Se dit enthousiaste, seulement 27%. Alors si l'engouement pour la fête populaire semble très peu élevé, à l'inverse, les Français sont plutôt intéressés par les épreuves sportives. Ils sont 52% à avoir l'intention de regarder les JO à la télévision ou à assister à une épreuve de la compétition. Alors si on retourne dans les travers de cet engouement ou de ce peu d'engouement, c'est la question financière qui laisse les Français sceptiques, puisque 3 Français sur 4 sont d'accord avec l'idée que le prix des billets pour les épreuves est trop importante et restreint l'accès aux personnes qui en ont les moyens. Autre chiffre, 71% jugent que les coûts d'organisation des JO sont trop importants. Ouais. On rappelle, ça va coûter, d'après les chiffres officiels, 4,4 milliards d'euros. Seule vraie satisfaction, la confiance des Français sur la sécurité lors de l'événement. Ils sont 6 sur 10 à penser que la France sera à la hauteur des enjeux de sécurité.
J-30 avant les JO de Paris 2024. Est-ce que ça vous excite? Vous nous appelez au 3216 sur RMC. RMC, radio officielle des JO 2024. Allez, je me tourne vers notre économiste du sport, Pierre Rondeau. Est-ce que ce manque d'engouement que vient de nous décrire Paul, il faut s'en inquiéter ou pas?
S'en inquiéter, non, parce que j'ai tendance à penser et à croire, et je pense, vous serez d'accord avec moi, le Gaulois français, le coq français, critique avant, regarde pendant et admire après. Le coq français, le français moyen, fier, aime se plaindre, ouais, par fierté mal placée, mais une fois que l'événement a lieu, il va le regarder. D'ailleurs, ça a été dit par Paul, effectivement, plus de la moitié des Français vont regarder l'événement,
Moi, je me souviens de la Coupe du Monde 98, au début de la Coupe du Monde 98, avant que ça commence, on était pays haute, hein. Ouais. Tout le monde dit ouais, ça va être le bazar, l'équipe de France n'est pas à niveau.
Oui. Non mais c'est ça, c'est que oui, là pour 98 et idem pour 2024, j'ai la certitude et je pense ne pas me tromper, je pourrais me tromper mais j'espère ne pas me tromper, j'ai la certitude que oui, on critique parce qu'il y a eu des cas, voilà, la scène polluée, la cérémonie d'ouverture.
Elle n'est toujours pas dépolluée, hein, mais bon.
Oui, voilà, il y a beaucoup de critiques qui ont été formulées, la question de la sécurité, de l'organisation, c'est vrai, tout cela est vrai, mais une fois que l'événement va arriver, une fois qu'on aura passé cette cérémonie d'ouverture,
déjà ça va prendre. Le soir du 26 juillet.
si cette cérémonie d'ouverture se passe de manière impeccable, ou en tout cas se passe très bien, déjà,
on pourrait être fier, d'autant plus voilà, que c'est une première d'avoir cette cérémonie le long de la Seine. Il y a eu une très grande ambition, donc forcément qui laisse sceptique, mais si on arrive à tout bien faire, et je pense qu'on fera tout bien, on va réussir à avoir des jeux magnifiques et tout le monde va s'extasier et va être content de regarder les compétitions à la télévision.
Robert, j'ai l'impression que tu es assez optimiste, toi.
Ça fait un siècle. Ouais. Ça fait un siècle.
1924,
donc. À Paris, donc effectivement, moi j'étais extrêmement excité. Alors on se posait
à l'époque,
des questions. Non, mais effectivement que ça ait lieu à Paris, de dire ça va être une séance d'ouverture différente, ça va pas être dans un stade, ça va se faire. Et puis beaucoup d'épreuves vont avoir lieu dans Paris. Donc ça c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que le président de la République, il a gâché les Jeux Olympiques.
Ah.
Il a gâché.
Donc tu partages la position d'Anne Hidalgo qui reproche dans Ouest France ce matin à Emmanuel Macron d'avoir gâché la fête.
Je pense qu'il a gâché la fête parce que cette dissolution, les points d'interrogation concernant le résultat, les gens se disent mais qui va, alors Macron va ouvrir les Olympiques, qui va être ministre de l'Intérieur ou la ministre de l'Intérieur à l'époque, il y a des problèmes de sécurité qui peuvent se poser, qui va être ministre des Sports, alors je sais, il y a des préfets, il y a des hauts fonctionnaires qui ont travaillé. Quelque part, il y a un doute qui s'est installé. Il y a une sorte de perte, si vous voulez, de l'optimisme, de la joie.
Et il faut que tu les rassures, Robert.
Bon,
non,
il y pardon, en a pas beaucoup.
Je vous dis comment moi je perçois. Et puis ce que me disent aussi les gens, si vous voulez, ça paraissait quand même un peu irresponsable 10 jours avant, si vous voulez, de faire une dissolution avec des résultats 10 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques.
Ah, c'est pas 10 jours avant
L'installation de l'Assemblée nationale, c'est le 18 juillet.
Ah bah oui.
Donc là, il y aura un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement.
Ils vont rien changer, je te rassure.
On verra.
Qui que ce soit.
Moi, je souhaite que ça se passe bien, vraiment. Mais quelque part, l'excitation, si vous voulez, elle a baissé un petit peu de niveau. Et je le regrette, hein.
Juliette Briens, tu ne suis pas l'Euro 2024, mais est-ce que tu es excitée à l'approche des JO de Paris 2024?
Bah justement, avant de tout critiquer, je tiens à préciser que j'adore les JO.
Ah.
J'adore les Jeux Olympiques, j'ai toujours adoré ça.
Mais pas cela.
Bah, mais non, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a absolument tout fait pour nous dégoûter de ces JO. Depuis le début, enfin depuis qu'on commence à en parler, on a explosé les budgets. Il y a eu des commissions d'enquête sur la commission des JO pour trafic d'otages, pour copinage. Il y a eu
une enquête en cours. Il n'y a pas de conclusion.
Oui, voilà, mais tout a été teinté, si tu veux. Il y a eu les billets. Attendez, je finis. Il y a eu les billets de métro à 4 €. Il y a eu la Seine dépolluée qui ne le sera finalement jamais. On le savait depuis le début, mais on nous a maintenu jusqu'à la fin que si. Maintenant, il y a les prix des billets qui sont exorbitants, les QR codes, on va pas pouvoir se balader dans Paris. C'était censé être une grande fête populaire. Et puis alors, les risques d'attentats. Enfin, en fait, ça donne pas envie, quoi. Et moi, c'est peut-être une part de responsabilité des médias qui ont peut-être trop insisté sur le côté négatif et pas sur le côté positif. Mais vous pouvez pas nier que, en tout cas, le sentiment général qu'on se fait de ces JO, c'est que c'est une tare, en fait. C'est une tare qui va peser sur le budget des Français, qu'on n'a pas le temps, qu'on a d'autres priorités pour notre pays, que, en fait, c'est ce qu'on se dit. Mais même si c'est dommage. Et là, évidemment, le pompon avec cette dissolution, évidemment, Emmanuel Macron pouvait très bien reporter les élections législatives à bien plus tard. Il a choisi le délai le plus court juste avant les JO. Évidemment, c'est le pompon. On se dit, si Bardella est Premier ministre, il y aura sûrement des émeutes monstrueuses en France. Comment on va faire les JO? Où seront les policiers à ce moment-là? Ils seront dans les quartiers, ils seront aux JO. Enfin, vous pouvez comprendre quand même que les gens aient un peu de mal à s'intéresser et à être excités. On ne sait même pas si on a des espoirs de médailles, etc. Personne n'en parle un peu.
Tu sais quoi, dans un instant,
voilà,
on sera avec l'un des espoirs de médailles françaises. On sera avec Alexis Jondard, champion d'Europe de plongeon en 3 mètres synchronisé. Il sera avec nous dans un instant.
Après, Rémi, j'entends ce que dit Juliette et justement sur ses craintes ou pas mises en avant par les médias. Je pense que c'est aussi notre devoir, et moi en tant qu'économiste, de faire aussi un devoir de pédagogie, de rappeler des faits, de rappeler des éléments sourcés, chiffrés, factuels. Quand par exemple tu mets en avant un coût qui a explosé, c'est pas le cas. Si on présente les choses en disant que le budget du COJOB c'est 4,4, la Solidéo c'est 4,4. En 2017, on avait budgétisé, provisionné un budget à 6 milliards, on est à 8 aujourd'hui. Donc oui, ça a dépassé 2 milliards. l'excès de 2 milliards, c'est sans commune mesure par rapport aux jeux précédents. Les jeux de Pékin, par exemple, c'est un dépassement de 1132%. Ça a coûté 32 milliards, par exemple.
Moi, j'ai un avis très particulier sur les JO, c'est que je pense que les JO, pour un souci écologique, financier, tout, ça devrait être tous les 4 ans. En Grèce, à Athènes. Voilà. Retour au bercail.
C'est une proposition.
Ce serait incroyable.
Il fait 50 degrés l'été. Hein.
Ouais, c'est vrai que. Mais oui, au moins, on arrêterait de construire des infrastructures gigantesques.
Oh, l'hiver,
les détruire après. Il y a
ce qui n'est pas le cas pour Paris.
Totalement à l'abandon.
À Paris, il y a trois choses qui ont été construites.
Pour les étudiants.
Dans le monde entier, il y a des infrastructures qui sont laissées à l'abandon.
Ailleurs, on sent que sur ce plateau, il y a un enthousiasme assez impressionnant. Et on vous pose la question. J-30 avant les JO, est-ce que ça vous excite? Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. On est en Côte d'Or, c'est ça?
Oui, c'est ça, à Meursault.
Ouf. On en parlait hier de Meursault, à propos de vin. Mais c'est pas le sujet. Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes amateur des JO déjà?
Alors oui, moi je suis un grand fan de tout sport. Bon, là-bas je suis rugbyman, mais sinon on va dire que je suis un grand fan des JO parce que je suis fan de tout sport. Et moi surtout le côté JO, justement ce que j'aime c'est connaître des sports que je ne connais pas, on va dire.
Bon, très bien. Ça commence dans 30 jours. Le compte à rebours est lancé. Est-ce que vous êtes excité Jean-Baptiste?
Eh ben, je vais vous avouer que l'aventure pour nous a commencé il y a un an. J'ai eu la chance d'être tiré au sort dans les premiers pour avoir des billets à bas prix, on va dire.
Super.
Premier tirage, donc.
Et donc il y en a eu, hein?
J'ai pris 12 places et les 12 places, toutes à 24 euros. Donc, pour dire qu'il y avait.
Bien.
Donc ensuite, on était très excités avec ma femme parce que.
Vous allez aller voir quoi?
Alors, nous, on va aller voir l'escrime, le beach volley, l'athlétisme et le parcours urbain. Mais je vais vous avouer qu'en fait, le choix, ça n'a pas été surtout d'aller voir des sports, ça a été voir les monuments où vont se procurer,
se dérouler
les sports. Voilà. Donc, par exemple, le beach volley se déroule à la Tour Eiffel. On a pris ça pour faire voir la Tour Eiffel à mon fils, en fait.
Ah, mais voilà, c'est
pourquoi.
Très bien.
On était très excités il y a un an, quoi. Je veux dire, on a pris les places, tout est programmé.
Vous devez être hyper excité là.
Et ben, je vais vous avouer que plus ça se rapproche, je suis de moins en moins excité. Déjà, le climat politique, on va pas se cacher. Que va-t-il se passer? Parce que s'il y a des manifestations, on sait pas, quoi. Je veux dire, là, on passe dans un inconnu déjà. Mmh. Et puis deuxièmement, on va pas se cacher non plus sur les attentats. Hein. C'est un risque qui, on y pense de plus en plus. Hein. Moi, j'ai confiance. On va dire que j'ai confiance dans Paris même. On va dire dans les sites. Je pense que ça sera très. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, par exemple, c'est les périphéries. Par exemple, les gares TGV ou dans le train ou tout ce qui se déroule en dehors de Paris, quoi. Je pense que j'ai confiance en la sécurité dans Paris même sur les sites des JO. Donc oui, à ce jour, c'est un peu une inquiétude. Donc c'est un petit peu la question. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'il n'y va pas?
Vous seriez prêt à renoncer à...
Bon, au fond de moi, je sais que l'excitation reprendra le dessus, je pense, au moment. Donc on va y aller, mais c'est une inquiétude, oui. Avec ma femme, on se pose la question. Là, on a un membre de notre famille qui doit nous héberger à Paris. Donc j'ai déjà été à Paris, mais on n'est pas des vrais Parisiens. Ouais. Donc il est venu nous expliquer le métro, pour prendre le métro, pour se diriger à Paris, pour aller chez lui, bref. Et ensuite, il nous a expliqué ce qu'il fallait pas faire, par exemple, dans le métro. Mais je lui ai dit, mais en fait, tu me fais peur, quoi. Alors il nous expliquait, dans le métro, bien mettre le sac collé contre soi, faire attention aux pickpockets.
Oui.
Et ça, je veux dire, ça nous inquiète. Après, il nous a dit...
Je peux vous rassurer... J'ai habité 20 ans Paris, je continue à y travailler, je prends le métro le matin, le soir, je suis gare du Nord le matin, le soir. Il m'est jamais rien arrivé, Jean-Baptiste.
Oui, mais
sincèrement. Après, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de croiser un touriste, je me souviens il y a quelques mois, qui était sud-américain, qui avait un énorme appareil photo très beau en bandoulière dans le métro. Je lui ai dit, je lui ai fait comprendre qu'il fallait pas le laisser autour de son cou. Et qu'il fallait le ranger dans son sac, voilà.
Il y en a d'autres à qui ça est arrivé.
Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Maintenant, non, mais ce n'est pas non plus
c'est pas Bogota, le métro.
Sincèrement. Franchement, j'habitais 20 ans à Paris.
Tout va bien.
si on fait un minimum, il y a des choses à ne pas faire.
Non, mais moi, je les vois, les pickpockets, tous les jours dans le métro.
Je n'ai pas dit le contraire. Drogué. Je me suis jamais fait agresser par un pickpocket.
Je crois, mais.
Et maintenant, c'est vrai que si le métro, d'ailleurs, il n'est pas ouvert.
Ça sert à quoi de dire ça, en fait?
Mais si jamais, je ne sais pas ce qu'il y aura des ouvertures, des amplitudes d'ouverture peut-être plus grandes dans le métro ou tout.
Une heure en plus.
Bon, c'est vrai que le RER, même moi, à 1h30 du matin, j'éviterai. Voilà. Dans certains endroits. Tout seul, par exemple. Ouais. Mais bon.
Oui, qui est
mais Jean-Baptiste, ça devrait bien se passer, si je peux vous rassurer. En tout cas, c'est pas non plus.
Oui, je me suis
Si je peux donner un conseil à Jean-Baptiste.
Oui.
Pour le métro parisien. Achetez maintenant, vous pouvez le faire via l'application, achetez maintenant vos tickets de métro.
Ah bah oui.
Ils vont augmenter en juillet, donc
mais c'est déjà fait. Jean-Baptiste, c'est hyper organisé.
Il a dit quelque chose de très important, Jean-Baptiste.
Écoutez, Jean-Baptiste, j'ai dit quelque chose de très important, et c'est Robert Sebag qui le dit, s'il vous plaît.
Dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que, il y a eu une volonté dès le départ sur l'organisation de ces jeux de le faire au cœur de la ville, et pas à l'extérieur de la ville. Et donc là, mais le Champ de Mars, c'est la Tour Eiffel. Il va y avoir les Invalides, l'esplanade des Invalides, la Concorde avec l'Arc de Triomphe. Donc effectivement, il y a une intégration des jeux, si vous voulez, au sein de la ville. Maintenant, sur les chiffres qu'a donné Paul tout à l'heure, je crois qu'il faut faire la différence entre les Parisiens et le reste de la France. Les Parisiens, les problèmes de circulation, les problèmes de QR code pour se déplacer, bon, ça les effraie un petit peu. Donc il faut un tout petit peu peut-être modérer les réactions des Parisiens par rapport au reste de la France.
Jean-Baptiste, vous êtes encore là? Je vous souhaite de très beaux Jeux Olympiques à vous et à votre famille.
Je souhaite vraiment que ça se passe bien.
Mais oui, mais j'en doute pas.
Maintenez votre venue.
Et Jean-Baptiste, puisque vous êtes passionné des JO et que vous ne pourrez pas tout suivre, n'hésitez pas à écouter RMC. Hein.
Ah bah, de toute façon, je suis du matin au soir sur votre radio. Je
suis
dans les vignes et vous êtes mes seuls compagnons dans la vigne.
Eh ben, on est très contents de l'être. Merci Jean-Baptiste. Bel été à vous. Bel été.
Merci, vous aussi.
Merci Jean-Baptiste.
Au revoir.
Alexis Jandard nous rejoint. Bonjour Alexis Jandard.
Bonjour à tous.
On est très fiers de vous accueillir dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes tout récent champion d'Europe de plongeon en 3 mètres synchronisés. Pardon. J'en perds mon français. Ça s'est passé ce week-end, hein, Alexis?
Exactement, c'était dimanche. Ah,
super, bah bravo.
Dimanche, ouais,
bravo.
Ça fait plaisir.
Bravo tout d'abord. Et évidemment, tout à l'heure, Juliette, tu me posais la question. Je ne sais même pas si on a des chances de médaille. On en a un là. On a une vraie chance de médaille avec Alexis Jandard. Alexis, on est à J-30 des JO. Je vous demande pas si vous êtes excité. J'imagine que vous l'êtes, Alexis.
Ah, complètement et plus que jamais. Moi, faut savoir que les Jeux de Paris, ça anime. D'autant plus que ce soit à la maison, surtout qu'à Tokyo, on a eu quand même une expérience assez particulière. On se rappelle que c'était quand même le Covid et qu'on était à huis clos, qu'on est arrivé sur le site de compétition 6 jours avant, que 24 heures après la compétition, on devait quitter le site et rentrer à la maison. Donc voilà, une expérience faite à moitié, malgré que ce soit mes premiers jeux et que j'étais super fier. J'attends les Jeux de Paris avec impatience et avec beaucoup d'excitation.
Ça va se passer comment pour vous dans les jours qui viennent là? C'est quoi le programme?
Là, il nous reste, là, du coup, on a quelques jours de repos suite au championnat d'Europe où ça faisait 10 jours qu'on était en Serbie. Là, on part en stage dimanche qui arrive en Allemagne pendant quelques jours avant de rentrer à l'INSEP qui va être le camp de base, on appelle ça, où tous les sportifs olympiques, qualifiés aux Jeux Olympiques, s'entraîneront avant d'intégrer le village le 22 juillet.
Bon, est-ce que vous comprenez, Alexis, on fait pas de langue de bois, on n'est pas là pour se mentir, c'est le sous-titre de l'émission Estelle Midi. Est-ce que vous comprenez, on va pas se cacher, se voiler la face, l'engouement il n'est pas encore là, quoi. Est-ce que vous le comprenez?
Encore là, mais ça va venir. Moi, j'entendais des choses et je pense que accueillir un événement planétaire aussi important, on ne sait pas ce que ça peut donner, donc forcément ça va créer des inquiétudes. Pour autant, je suis tellement confiant aux valeurs des jeux, en ce que ça peut dégager comme avantage, comme fraternité, rassembler la Terre entière dans un seul unique même point. Je vois pas ce qu'il y a de plus beau. Donc moi, c'est ce qui m'a toujours animé, cette fameuse couronne de laurier, les Jeux Olympiques. Ça fait rêver et je pense que on sera tous contents.
Le contexte là, politique, je vous demande pas de prendre position en aucun cas, Alexis. Mais bon, il y a un contexte politique particulier, on s'attendait pas, quoi, c'était pas prévu. C'était peut-être pas l'idéal, quoi.
Si on pouvait choisir, on ferait autrement, je suppose. Pour autant, c'est comme ça que se sont fait les choses. Moi, je vois qu'on est champion d'Europe et que forcément, on a notre petite place sur les réseaux sociaux, mais qu'en ce moment, c'est difficile de parler d'autre chose. Pour autant, je pense que le sport, c'est une bonne façon de couper un petit peu avec tout ça et de ramener les choses à des choses qui fassent sourire et qui rassemblent les Français.
Tiens, Alexis, justement, Si vous étiez face à un Français qui vous dit ouais, mais moi je suis pas très enthousiaste, j'arrive pas à me motiver. Qu'est-ce que vous lui diriez très rapidement pour essayer de le motiver?
Je dirais que je l'entends et que de toute façon accueillir les jeux à la maison, ça créera plus de polémiques, surtout qu'on sera face à ça toute la journée. Des polémiques à l'étranger sur les autres Olympiades, il y en a eu, mais on était moins concernés parce que ça ne nous regardait pas. Mais là, on est en plein dedans. Donc évidemment que c'est le feu, c'est animé. On pourra en dire plein de choses sur tout un tas de sujets. Pour autant, je partagerai les valeurs qui s'en dégagent, ce que je pense des Jeux Olympiques, ce pourquoi on fait du sport. Et j'espère que le convaincre ces personnes que c'est quelque chose de beau et que ça ne s'arrête pas à des problèmes de pays qui fait accueillir tout ce beau monde.
Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous, Alexis Jondard, tout nouveau champion d'Europe de plongeon en 3 mètres synchronisé. On vous retrouvera avec grand bonheur sur RMC tout cet été au cours de ces JO, RMC radio officielle des JO de Paris 2024. Alexis, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Alexis, merde, Alexis.
Bravo.
Allez, on compte sur l'équipe de France. Moi, j'essaierai de faire mon boulot. Et puis, on va rentabiliser tout ça. Vous serez fiers de nous voir sur le podium, je l'espère.
J'en doute pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis Jondard, d'avoir été avec nous. Frédéric est avec nous. Bonjour, Frédéric.
Oui.
Frédéric,
bonjour,
vous êtes là?
Oui, vous m'entendez?
Ouais, on vous entend. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Ille-et-Vilaine, c'est ça, Frédéric?
C'est tout à fait ça. À
côté vous faites quoi dans la vie?
Je suis prof de sport, éducateur sportif et coach. Et
bon, hey, ça fait plaisir. Enthousiaste?
Très enthousiaste parce que c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir les Jeux Olympiques en France. Ça n'arrive pas souvent. Ça faisait 100 ans que ce n'était pas arrivé. Je suis content de passer derrière Alexis parce que j'ai vu ses exploits sur l'ouverture de la piscine à Paris.
Oui, je lui ai pas rappelé, mais effectivement, c'est Alexis qui avait glissé devant Emmanuel Macron pour l'inauguration. Voilà, c'est la fameuse image qu'on a vue. Bon, il s'est fait un petit...
Et il l'a pris avec beaucoup d'humour.
Exactement.
Voilà, c'était très sympa sur les réseaux. Ouais, et donc, je suis maître nageur aussi, donc c'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui est.
Ça peut arriver, on va dire. Voilà.
Et je suis content de vous avoir parce que en fait pendant le confinement j'ai eu la chance aussi d'intervenir sur votre antenne. C'était Mobilisons-nous et c'était ce qu'on pouvait proposer aux gens pendant cette période qui était compliquée.
Ouais, je me souviens bien.
Voilà, je suis content de vous avoir. Et je voulais rajouter que ça n'arrive pas souvent. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient pas forcément intéressés par les Jeux Olympiques, mais moi je me souviens de nombreux Jeux Olympiques, notamment ceux de Barcelone. En 92, ceux d'Albertville où je regardais devant ma télé notamment Barcelone, la Dream Team, l'équipe de basket américaine, et c'est à partir de là que j'ai commencé à rêver et voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie de travailler dans le sport, et ça représente beaucoup de valeurs en fait. Le sport, c'est les valeurs de partage, de solidarité, de dépassement de soi et de respect, et je pense que dans cette période actuelle c'est important d'avoir toutes ces valeurs qui sont mis en symbiose.
Pierre, tu peux pas dire autre chose, toi non plus, Pierre.
Bien évidemment, les valeurs du sport transcendées par un événement. Je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est 3 milliards de téléspectateurs.
Ouais.
Alors peut-être que c'est vrai que face à l'immensité de la chose, les gens vont prendre peur et vont s'inquiéter des risques terroristes, des risques sécuritaires. Je rappelle que la France, c'est la Coupe du Monde de rugby en 2023, c'est l'Euro de football en 2016, la Coupe du Monde de foot féminine, la Coupe du Monde de hand masculine et féminine, des matchs de NBA, des combats du UFC. On a l'expérience, on a un savoir-faire.
C'est aussi une finale de Ligue des Champions chaotique il y a 3 ans.
C'est vrai. Il y a aussi malheureusement le grain de sable dans les rouages. Il y a la finale de la Ligue des Champions qui a été catastrophique en termes d'organisation. Depuis, le préfet de police a été remplacé. Le préfet de Paris a été remplacé. Gérald Darmanin ne sera plus ministre de l'Intérieur puisqu'il a annoncé qu'il ne serait plus ministre après législative. Là, il y a du changement, mais on a un savoir-faire, on a une expérience, il n'y a pas d'inquiétude, ça va être magnifique.
De toute façon, comme tu viens de le dire, Pierre, chacun fera comme il l'entend, mais vu qu'on va être sous le regard de 3 milliards de téléspectateurs, autant sourire.
Vous m'avez remotivé quand même.
Même si on n'est pas forcément rassuré, mais autant sourire parce qu'on... Tout le monde va nous regarder.
On sera rassuré.
Vous m'avez remotivé quand même.
Ah, ça c'est...
Non mais j'adore les JO et j'étais triste en fait de ne pas ressentir cette excitation.
Ça va venir. Allez, merci à Frédéric d'avoir été avec nous au 32-16. on va pas se le cacher, je pense qu'il y a encore du boulot pour convaincre. J-30 avant les JO, est-ce que ça vous excite, Paul?
Nos auditeurs sont encore moins convaincus que l'entièreté des Français, puisqu'ils répondent non pour 84% d'entre eux.
Ça va venir. Allez, dans un instant, RMC Conso, à tiens.
Et avant ça, alerte. Vous avez reconnu le bruit, c'est le moment pour vous inscrire, pour vivre l'expérience RMC, le 8e de finale de l'équipe de France. C'est lundi à Düsseldorf et on vous envoie là-bas le vol, l'hôtel, les places pour le match. Pour ça, Rémi, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut envoyer un SMS.
Euro au 7-32-16, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16.
Allez, dans un instant, RMC Conso, quel est le rapport entre les législatives et la confiture? Mais vous allez savoir dans un instant. Vous allez savoir dans un instant. C'est dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story. Tout de suite, Charlotte Méritant est là, avec elle on va parler lunettes, on va parler confiture et législative. Oh là là,
Camoulin. Estelle Midi,
RMC Conso.
Salut Charlotte.
Salut Rémi.
On parle donc aujourd'hui des législatives, mais bien sûr sous l'angle Conso. Tu as repéré 5 produits du quotidien qui pourraient bien être impactés par le résultat des élections parce qu'ils sont mentionnés dans les programmes et concernés donc par plusieurs propositions.
Oui.
Il y a un pot de confiture,
oui,
il y a un
j'ai...
stylo, il y a des lunettes.
Une serviette hygiénique et spatule. A priori, effectivement, ça n'a rien à voir. Les 5 n'ont rien à voir ensemble. Mais effectivement, ils apparaissent tous dans les programmes. Alors, la confiture, pourquoi la confiture? Bon, c'est simplement pour symboliser le produit alimentaire qui vont évidemment être impactés par les législatives. Ils apparaissent, ils sont mentionnés dans les programmes. Alors, cette confiture, par quoi elle pourrait être impactée? Un, par une évolution de la rémunération des agriculteurs. C'est une préoccupation pour les 3 blocs politiques. Le NFP, le Nouveau Front Populaire et Ensemble, le Parti Présidentiel, veulent mettre en place un prix plancher pour les agriculteurs et le Rassemblement National parle de garantir des prix rémunérateurs. 2, éventuellement par le blocage des prix des produits de première nécessité qui est proposé par la gauche, proposé aussi par le RN, mais sous une autre forme. En cas de forte inflation, il parle de supprimer la TVA sur ces produits de première nécessité. Alors, on n'a pas de liste de produits encore établie, mais pourquoi pas la confiture, ça pourrait très bien en faire partie. Il y a aussi l'étiquetage sur l'origine des ingrédients. Le NFP veut le rendre obligatoire, le RN le généraliser. Et pour ce qui est du parti présidentiel, c'est eux qui ont mis en place l'origine info, qui est déjà un étiquetage qui va en ce sens, qui n'est toutefois pas obligatoire. Et puis, la taxe kilométrique sur les produits importés, qui est une mesure proposée par la gauche et qui pourrait aussi faire évoluer le prix de cette confiture à la hausse.
Deuxième produit que nous a apporté, un silo, tout simplement.
Oui, ça symbolise quoi? Les fournitures scolaires, tout simplement. Elles ont fait l'objet d'une annonce de Gabriel Attal qui propose des achats groupés dont les prix seront négociés directement par l'État avec les fournisseurs et pour permettre une baisse de prix de 15%. La gauche, elle, veut aller jusqu'à la gratuité de ces fournitures et le RN n'en fait pas spécifiquement mention, en tout cas pas sur la papeterie, mais il veut rendre l'uniforme obligatoire, même si on ne sait pas encore qui financera le coût de cet uniforme.
Je vois aussi sur la table une spatule qui est là, et une serviette hygiénique. Quel rapport, là?
Le seul rapport entre ces deux produits, c'est qu'ils font l'objet de propositions de la gauche. Alors, pour les protections menstruelles, il est prévu une prise en charge complète par la Sécurité sociale si jamais la gauche passait, si jamais c'était le programme du Nouveau Front Populaire qui était appliqué. C'est une mesure qui, d'ailleurs, a déjà été partiellement mise en place par le gouvernement actuel, mais uniquement pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sur les protections réutilisables. Quant à ma spatule, elle symbolise l'ustensile de cuisine. Alors j'aurais dû ramener une poêle, mais ça rentrait pas dans mon sac.
Non, mais une spatule, c'est très bien. Ça marche, ça passe.
Ça marche aussi. Elle fait l'objet d'une loi qui vise à interdire les polluants éternels. Cette loi, elle a été adoptée. Elle aurait dû être adoptée définitivement d'ici la fin de l'année si les travaux parlementaires n'avaient pas été stoppés par la dissolution. Ce que veut faire le Nouveau Front Populaire, puisque dans la loi, il avait été retiré les ustensiles de cuisine à cause des protestations de Marc, notamment Seb. Ce que veut faire le Nouveau Front Populaire, c'est d'interdire aussi les PFAS, les polluants éternels, dans tous les ustensiles de cuisine.
Un dernier objet, tu nous l'as amené, elles sont très belles, très saillantes.
Ce sont les miennes,
Des lunettes.
Des lunettes. Alors, René
Sens veut que les opticiens puissent adapter une correction de lunettes sans renvoyer leurs clients chez l'ophtalmo. C'est ça la mesure qui concerne les lunettes. L'objectif, c'est évidemment de libérer des rendez-vous médicaux en permettant à des professions paramédicales de réaliser des actes qui sont jusque-là réservés aux seuls médecins. Alors, il faut savoir que c'est une mesure qui est déjà dans les clous, qui a été mentionnée par Gabriel Attal dans une conférence de presse en avril et qui d'ailleurs existe même en réalité déjà depuis 2022 suite à un accord avec l'assurance maladie. Donc bon, c'est une mesure qui est mentionnée dans le programme mais qui finalement existe déjà.
Merci beaucoup Charlotte. Et ben ce soir, lorsque vous ferez la cuisine avec votre spatule ou lorsque demain matin vous servirez, vous ferez une tartine de confiture pour votre fils ou votre fille, eh bien dites-vous que tout est politique.
Tout est
lié à la politique. Merci beaucoup Charlotte. Tu es là demain. Tu sais de quoi on parle demain?
Demain on parle des box repas. Alors ça n'a rien à voir. Vous savez, sont ces boîtes qui vous sont livrées avec des ingrédients et des recettes et c'est à vous de suivre la recette. Mmh. On verra ce que ça vaut.
On va sur le marché ou dans son jardin, ça marche aussi.
Non, on c'est pour les feignants, quoi.
Comme Paul par exemple. Allez, on en parlera donc demain. Dans un instant, les immanquables. Gratuit, hein. Les immanquables de Paul Lassen. Tu nous as cuisiné quoi, Paul?
Débrouille-toi.
Très bien. Voilà. Merci de m'avoir invité. Allez, on se retrouve dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, midi 15h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Il est 14h38 et à cette heure-là, comme tous les jours, ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Paul Lassen est là pour les immanquables. Paul, on commence avec l'affiche du jour.
Celle d'un candidat d'extrême droite qui suscite la consternation en Lorraine. Donnons un avenir aux enfants blancs. Voilà ce qui est écrit sur l'affiche qui représente un jeune garçon blond aux yeux bleus qui porte la signature du Parti de la France. Et d'après le candidat qui a installé ces affiches, l'affiche véhicule, je cite, un message d'espoir pour notre jeunesse et rien d'autre. Et si l'on y voyait autre chose, il s'agirait d'une interprétation malveillante, sauf que depuis, l'affiche a été retirée et une enquête ouverte.
Vas-tu être malveillant, Pierre Rondeau?
Non, mais il est en train vraiment d'argumenter en disant que c'était pas malveillant, c'était pas raciste.
Non, c'était juste une mauvaise interprétation.
Mais c'est qui, en fait?
Non, mais attendez, on est où, là? C'est vraiment, évidemment que c'est raciste, évidemment qu'il faut l'interdire, évidemment qu'il faut le sanctionner, évidemment qu'il faut le condamner. Moi, ça me paraît même... qu'il ait pu seulement croire déjà comment il a réussi à être candidat et qu'il ait pu croire que ça puisse passer en disant c'est vous qui voyez le racisme dans cette affiche. En plus, même cette affiche-là elle a, me semble-t-il, été faite par une IA. Ça se voit d'ailleurs que l'enfant n'a pas l'air vrai.
Une intelligence
Non, qu'est-ce que je vous dise, c'est profondément raciste et il faut profondément et violemment condamner cette personne.
Et énergiquement, on va dire.
Énergiquement condamner cette personne. C'est aberrant qu'en 2024 on puisse faire ce type d'affiche.
Ça te surprend?
Ça me surprend que le racisme totalement banalisé. Ça me surprend que quelqu'un se dise tiens, je vais candidater à des élections législatives, je vais représenter un parti, je vais mettre en avant mon racisme sans qu'une honte et aucune empathie. C'est voilà, donnons un avenir aux enfants blancs. C'est honteux et il faut énergiquement le condamner.
Robert, tu trouves ça terrible, mais est-ce que ça te surprend?
Je vous ai parlé tout à l'heure de désinhibition. Et tout est possible. Et en plus, utiliser l'image d'un enfant, quel qu'il soit, un enfant, quoi, pour une propagande électorale, il faut stopper ça très, très, très vite. Parce que j'ai très, très peur que cette désinhibition entraîne des dérapages de plus en plus nombreux. Et c'en est un énorme.
Juliette.
Moi, alors. Comment dire, cette affiche, le problème numéro un, en fait, déjà, c'est l'esthétique qui ferait un peu référence, on voit un peu.
Tu parles de cet enfant aux yeux bleus.
Oui, ça fait un peu, c'est pas fait dans la dentelle, on va dire. Ouais. En revanche, moi, ce que je trouve incroyable, en fait, dans ce pays, c'est que ça aurait été le même slogan avec donnons un avenir aux enfants noirs. C'était même pas un sujet. Et moi, je pense que le seul racisme systémique Attendez, mais j'ai le droit de parler ou pas? J'ai le droit de parler ou pas?
On va laisser Juliette parler. Elle a raison. On la laisse parler.
Le seul racisme systémique dans ce pays, pas le seul racisme, mais le seul racisme systémique dans ce pays, c'est le racisme anti-blanc. Et, c'est le, c'est, je vous promets,
Tu as des chiffres?
Encore hier.
Est-ce que tu
encore
as des chiffres?
Attends, encore non, hier.
Est-ce que tu as des chiffres?
Attends, j'ai d'autres exemples, si tu veux, j'ai
non,
des exemples.
Non, je te demande pas des exemples,
mais
je te demande des chiffres.
Bien sûr que si. Mais arrête avec tes chiffres. T'as des chiffres sur le racisme, toi aussi, en
Chambre d'immigration? Oui, il y a des études.
Il est moins.
Ah, ben, je vais les trouver.
Donc, le seul racisme systémique, il est en
France.
Il
n'y
a que au blanc.
Le nombre d'acteurs
systémiques. Il n'y a que au blanc qu'on dit, vous êtes de trop, il y a trop de blancs et de filles. Pourquoi il y a trop de blancs? Hier encore, sur Twitter, après le débat sur TF1, il y avait 3 candidats blancs. On leur a dit, j'ai vu partout sur Twitter, en 2024, il y a que des blancs. Il y a que des blancs, et il y a que à eux qu'on peut dire ça. Donc, à un moment donné, cette affiche, elle est nulle, elle ne sert absolument à rien. Mais je dis simplement qu'il y a des libertés qui sont prises avec d'autres couleurs qui ne sont jamais prises avec les bons ou inversement. Je trouve ça incroyable qu'on ne le dise jamais et qu'on nie la réalité du racisme anti-blanc en France. C'est tout.
Juliette, je respecte ta position, mais encore une fois, mais maintenant, on doit vraiment, mais vraiment pas vivre dans le même monde. Moi, tout à l'heure, on parlait du métro et encore une fois, j'ai vécu 20 ans à Paris, en banlieue parisienne. Proche banlieue et banlieue populaire. J'ai vécu 20 ans à Paris, je continue à travailler à Paris, à prendre le métro tous les jours, à prendre le train tous les jours. Et je ne sais pas, t'as peut-être pas de bol. Moi, je sais que j'ai peut-être beaucoup de chance.
D'accord.
Je n'ai jamais été victime de racisme anti-blanc.
Moi, ce qui est marrant.
Et je me fais pas agresser tous les jours dans le métro. Alors, je dois avoir une chance.
D'accord. Mais il n'y a pas que ça,
Rémi.
Dans quelles universités vous avez vu des réunions en non-mixité interdites aux Noirs, par exemple?
On est d'accord, c'est scandaleux.
Ah, c'est marrant. Mais oui, c'est scandaleux.
Non, mais ce serait scandaleux dans un sens.
Mais dans quelles universités vous avez vu ça? Ça n'existe pas, c'est que les Blancs. Voilà. Et
donc,
ça, c'est autorisé, il n'y a pas de problème.
Pierre.
C'est pour ça que je vous dis racisme systémique,
donc,
anti-blanc.
De ton exemple, tu en déduis une généralité et un fait général, et tu t'autorises à dire que les personnes de couleur, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, peu importe, ne seraient moins victimes que les Blancs, que tout ce qui concerne la discrimination à l'embauche, discrimination dans l'entrée en boîte de nuit, discrimination pour obtenir un appartement, discrimination à l'emploi, discrimination et racisme du quotidien, brimades, insultes. Non, puisque les Blancs, mon Dieu, sont insultés sur Twitter. C'est ton argument. Hier, j'ai vu sur Twitter. Bravo, la vraie vie, c'est Twitter. Donc, sur Twitter, tu as vu des cas de racisme anti-blanc, donc ta conclusion pour la France entière, c'est le racisme.
Mais s'il y avait eu hier du racisme sur un candidat LFI sur Twitter racial,
quand on avance des faits, quand on avance du factuel que Paul a présenté,
liguez-vous là, sortez des trucs. Je viens de vous sortir un exemple très concret sur les réunions.
Et nous, on a des faits. Je te donne des faits. En 2023,
Paul, attends, un instant, on remet les choses à plat. On ne se ligue pas, on fait du journalisme.
En 2023, 15 000 infractions à caractère raciste, d'accord ? En 2022, d'après le service central du renseignement territorial, placé sous l'égide du ministère de l'Intérieur, il y a eu 56 faits de racisme anti-blanc, contre 15 000 pour le racisme global, enfin je ne sais pas comment le citer. Voilà, donc on est à 56 d'un côté, 15 000 de l'autre.
D'accord, mais est-ce que ça change ce que j'ai dit ?
T'as dit que c'était plus important.
Ça relativise.
Non, j'ai pas dit que c'était plus important. J'ai dit que c'était le seul racisme qui était autorisé en France.
Juliette.
Autorisé. Vous l'avez vu avec les aux États-Unis, ils enlèvent des points aux blancs pour rentrer dans les universités.
On va rester dans le domaine, on va parler des insultes du jour.
Rentrez chez vous, bientôt c'est la fin de la France pour les bougnoules comme toi. On n'en veut plus des têtes d'arabes. Le peuple français historique en a plein le cul de tous ces bicots. Le bateau est retour au bled pour les racailles comme toi. Voilà le triste florilège des insultes reçues ces derniers jours par les journalistes Karim Rissouli et Mohamed Bouafsi. Alors, l'animateur de C'est ce soir a reçu une lettre manuscrite haineuse directement à son domicile. Quant à Mohamed Bouafsi, qu'on connaît bien sur RMC, lui a publié sur son compte Instagram la totalité des messages à caractère raciste qu'il a reçus sur le réseau social.
Alors, on va essayer de dépassionner le débat, même si c'est évidemment scandaleux ce qui se passe là. Est-ce que tu n'as pas le sentiment quand même, Juliette, qu'il y a une libération de la parole dont on veut côté tout à l'heure?
Je sais pas, en fait, moi...
Actuellement, moi, je sais que je vois autour de moi, Juliette, et c'est pas un jugement. Je constate juste qu'autour de moi, je vois aujourd'hui de plus en plus de personnes ouvertement le dire, et c'est pas un jugement, elles font ce qu'elles veulent, mais dire bah moi je vais voter RN, simplement ça, ce que je n'entendais pas auparavant, en tout cas beaucoup moins. Je vois beaucoup de gens qui aujourd'hui revendiquent clairement voter RN, et grand bien leur en face, je veux dire, c'est pas le problème, on est en démocratie, le parti aujourd'hui est autorisé, il n'y a pas de souci. Mais il y a une libération.
Les gens, effectivement, assument voter RN et assument ne plus supporter cette immigration débridée. Après, ça ne veut pas dire que certains, évidemment, confondent absolument tout et qu'il n'y a pas des gens qui vont, mais beaucoup trop loin dans la crasse, dans la haine, dans le racisme.
C'est des délits,
hein, recevoir des lettres, donc, des insultes raciales et encore plus écrit sur une lettre chez soi, ce qui est encore plus angoissant, c'est absolument à condamner fermement. Toutes ces choses, il faut être très clair dessus. Après, il ne faut pas tout mélanger. La lutte contre l'immigration, ça ne veut pas dire envoyer des lettres chez les gens de haine raciale. Vous ne pouvez pas imaginer le genre de message que je reçois. J'imagine. Moi, ce que n'importe quelle politique ou personne publique reçoit, que ce soit chez elle ou que ce soit sur ses réseaux sociaux. Donc tout le monde est victime de la haine ambiante en ce moment dans ce pays. Et tout est à condamner. Voilà. C'est clair et net.
Bah, c'est clair et net. Robert.
Bah, je l'aurais répété plusieurs fois hein, durant cette émission, la désinhibition, effectivement, les gens se permettent. C'est pas acceptable. Bon, je peux accepter que les gens votent Rassemblement National, d'accord. Mais là, tout d'un coup, si vous voulez se retourner vers des personnalités connues, un sale problème, c'est des personnalités connues. Il n'y a pas de limite, il peut y avoir des réponses à ça, et donc on rentre dans un cercle vicieux, si vous voulez, de critiques qui me font un petit peu peur. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'angoisse vécue aujourd'hui par beaucoup de Français. Et ça rajoute à l'angoisse qu'on trouve l'adresse d'un journaliste connu, donc on a trouvé son adresse personnelle, on lui envoie. Donc voilà. Et vous multipliez ça par plusieurs dizaines ou centaines, ça génère effectivement une angoisse très importante.
La fracture du jour, Paul.
Celle au sein de la France insoumise, dans une séquence diffusée par TF1, François Ruffin explique qu'il considère Jean-Luc Mélenchon comme un repoussoir pour les électeurs de gauche, une déclaration qui a provoqué la vive réaction d'Adrien Quatennens. Je le cite, « Si Mélenchon et la France insoumise ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas. Et aujourd'hui, tirer contre lui, c'est ton assurance vie. Rejoins le Rassemblement National direct, on gagnera du temps et de l'énergie. »
Bon, le nouveau Front Populaire, ça tangue déjà pas mal. Hein. N'oublions pas que la NUPES avait explosé en plein vol. Là, ils sont pas encore... les élections ne sont pas encore passées. Ça fait désordre.
Est-ce que je vais m'autoriser à être vulgaire?
Oui, Pierre.
Adrien Quatennens, ferme ta gueule. Voilà.
Mais c'est la frustration qu'il a d'avoir retiré sa candidature.
Non, mais Adrien Quatennens qui le fait agir comme ça. Si vraiment c'est un homme de gauche qui le fait.
Ils vont pas tous se taire. Certains demandent déjà à Jean-Luc Mélenchon de se taire. Maintenant, c'est
Adrien Quatennens. Oui, écoutez, si le peuple de gauche qui le pense représenter, ou en tout cas pense appartenir, veut faire gagner la classe politique de gauche, qu'il se taise. Voilà, tous les Mélenchons, les Chiquirou, les Quatennens, tous les panneaux et compagnie, si vraiment ils veulent faire gagner la gauche et la grande gauche, hein, le spectre qui va du NPA aux sociodémocrates, ces gens-là doivent se taire. Ils ne représentent pas l'immense majorité du peuple de gauche. Je rappelle qu'aux dernières européennes, c'est le parti de Raphaël Glucksmann qui est arrivé en tête. Donc Adrien Quatennens, qui n'est pas candidat, qu'il se taise, il arrête la politique, il fait autre chose, mais il se permet pas de donner comme ça des bons points aux gens de gauche, des mauvais points à Ruffin et des bons points à Mélenchon. Quatennens, si vraiment c'est un homme de gauche, qu'il se taise. Point final.
Juliette.
Effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a vraiment la sensation qu'au nouveau Front Populaire, c'est LFI qui mène la danse.
Qui essaye.
Pardon. Oui, qui essaye, mais et qui effectivement refuse.
Oui, mais regarde sa tongue.
Refuse de se taire, en tout cas le groupe, quoi. On a l'impression qu'il y a le groupe Mélenchon, Chiquirou, Quatennens, etc. Mais de toute façon, François Ruffin, il me semble que c'est sorti hier dans la presse, il s'apprête à quitter LFI après les élections. Peut-être il amènera-t-il avec lui les autres frondeurs de LFI, mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour le nouveau Front Populaire, parce que c'est un boulet, en fait, pour les électeurs de droite. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, tout ce raffut et Mélenchon qui veut pas lâcher cette place de Premier ministre, mais surtout mais pour le NPF, c'est compliqué.
On termine avec l'addiction du jour, Paul.
Oui, les Français se droguent davantage. Tel est l'enseignement tiré d'une nouvelle étude publiée ce mercredi par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et le principal enseignement, c'est l'explosion de la consommation de cocaïne. Un adulte sur 10 en a déjà consommé. À titre de comparaison, en 2017, il n'était que 5,6%, deux fois moins. Autre enseignement, l'usage récréatif n'est plus le seul. De plus en plus de Français consomment de la cocaïne pour supporter la pénibilité au travail.
Un Français sur 10, Robert, a déjà consommé de la cocaïne. Moi, ça me laisse pantois.
Oui, moi aussi, mais c'est une réalité. C'est les prix ont baissé. Ouais. Le coût a baissé, donc ça. Oui, en oui. plus, si vous voulez plus vous parler de ce genre de choses et des effets, il y a des gens que ça attire. Et puis bon, il y a la fatigue. Alors, on parle de la cocaïne. Moi, je vous parle des antidépresseurs, des anxiolytiques. Depuis longtemps, la France est championne. Consommation de cannabis, consommation d'herbes. N'oubliez pas le phénomène qui prend une ampleur extrêmement importante qu'on appelle le chemsex. Et dans le service dans lequel je suis, on a beaucoup de victimes du chemsex. À la fois d'un côté psychiatrique, mais également un côté médical, avec augmentation des contaminations, en particulier des maladies sexuellement transmissibles. Donc il y a tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, qui me fait un tout petit peu peur. Et la cocaïne est un des éléments.
Mais ce qui est surprenant dans ces chiffres, Robert, c'est que, alors c'est peut-être une question de génération, j'en sais rien. Moi, quand j'avais, j'ai 50 ans, j'étais étudiant, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans ou même 30 ans, j'avais des copains qui fumaient du cannabis. Voilà, ça, ouais. ça a toujours été. Mais je veux dire, j'ai connu quelques copains qui prenaient par-ci par-là quand on avait 20 ans dans des soirées techno. C'était une question de génération. Quelques cachets, ecstasy, etc. Et déjà, je sais que ça me comment dire ça? Quand j'ai su que j'avais deux, trois copains qui en prenaient, pour moi, c'était très grave. Je me disais, mais c'est grave ce que vous faites. Et voilà, sans faire de morale, mais c'était pas rien, quoi. Et là, je me dis, la cocaïne, c'est banalisé. Mais la cocaïne, ça nous paraissait un truc de malade.
C'était un truc de toxico,
des milieux relativement bourgeois, bobos, intellectuels.
L'élite, mais aujourd'hui, très dangereux. Rémi,
ça s'est démocratisé, entre guillemets.
Tu comprends ce que je veux dire entre le cannabis et le cocaïne? Il y avait quand même un.
Bien sûr.
Je disais,
c'est une question de prix, je pense, en fait. Hein.
Et puis, si vous voulez, ils ont des effets complètement différents. Hein, le cannabis et l'herbe, ça va être plutôt quelque chose d'un peu d'euphorisant, de désinhibition. La cocaïne, c'est un stimulant.
Robert, toi qui es médecin, on est d'accord que l'addiction, il n'y a jamais de bonne. On peut être addict, évidemment, l'alcoolisme, le cannabis, mais enfin, la cocaïne, il y a quand même un danger.
Alors, c'est une addiction phénoménale. Plus psychologique, si vous voulez, qu'elle n'est physiologique, comme ça l'est pour le crack, ou pour l'héroïne, ou ce genre de choses. Non, mais en termes d'addiction.
Oui, bien sûr.
Hein, quand quelque chose vous plaît, ça donne de bons effets, vous avez une addiction psychologique. Vous avez envie de recommencer parce que c'est pas. Mais si on stoppe la consommation de cocaïne, il va pas y avoir le syndrome de manque que vous pouvez avoir avec d'autres drogues.
Oh, merci beaucoup Robert pour ces précisions. Estelle Midi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment demain à partir de midi. Et tout de suite, le Super Moscato Show avec Vincent. Salut Vincent.
Comment il va Rémi? Attends, j'étais mon joint.
Vincent. En pleine forme. Vincent, dis-moi, Vincent, est-ce que tu vas nous parler de la purge?
Oh, la purgeasse contre la Pologne. Les Polonais 0-0 contre le premier Polonais. On n'en peut plus. La ville des 10 derniers meetings.
Attends, c'était un partout, Vincent.
Un partout,
excuse-moi. Oui,
franchement, ça valait un 0-0.
Non, mais on n'a toujours pas marqué de but. On n'a toujours pas marqué de but à part ce penalty.
Penalty.
C'est catastrophique.
Penalty contre son camp.
Oui, alors on va en parler bien entendu en long, en large, en travers. Puis la Villenie, il n'a plus qu'un meeting, la Villenie, pour pouvoir tordre bien sa perche. Ça, docteur, vous connaissez ça, tordre des perches comme ça. Il faut qu'il fasse 6m0, ouais.
Je ne sais pas s'il a déjà fait 6m0, Robert. Je suis pas sûr.
Attention, attends, de quoi, Robert? Un adepte du Hublot, la boîte de nuit à côté de Gaillac? C'est pas vrai, Robert?
De me rappeler cette époque. Nostalgie, où est-elle? Le Hublot à Gaillac.
Merci au tonton Flingueur. Allez, dans un instant, le Super Moscato Show. Et nous, on se retrouve demain à partir de midi dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Belle émission, Vincent.